C'est la lumière de la grande instance qui, du second vent de Souab, engendra le troisième et l'ultime puissance. Extrait de la divine comédie de Dante Alighieri à propos de l'empereur Frédéric II, roi de Sicile.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
À la fin de notre première chronique dédiée à la Sicile médiévale, nous avions laissé l'histoire de l'île à l'extinction de la famille de Hauteville qui avait régné pendant près d'un siècle et demi sur cette grande île méditerranéenne. Désormais, si le royaume normand n'est plus aux mains de la dynastie normande, il va passer aux mains des empereurs du Saint-Empire. En effet, Constance de Hauteville, qui était l'héritière de la couronne de Sicile, avait épousé Henri VI de Souabe, fils de Frédéric Ier Barberousse, et héritier du titre d'empereur du Saint-Empire romain germanique. C'est donc Henri de Souabe qui va devenir à la fois empereur et roi de Sicile. N'oublions pas que non seulement il domine l'île elle-même, mais également le Mezzogiorno italien, c'est-à-dire le Midi italien, en particulier la région de Naples, la Calabre, les Pouilles. Or, ils ont un fils. Ce fils est Frédéric. Celui-ci va devenir très vite orphelin. En effet, il perd son père à l'âge de 3 ans et sa mère à l'âge de 4 ans. Ce personnage va donc connaître une jeunesse difficile, faite d'expériences dans Palerme et dans Naples, mais il va devenir un des personnages les plus extraordinaires de l'histoire médiévale. C'est Frédéric II de Hohenstaufen. Ce prince allemand, qui va effectivement devenir maître du Saint-Empire, va être également roi de Sicile. Et sans doute que cet Allemand va aimer la Sicile et l'Italie du Sud comme peu de ses contemporains. C'est un homme absolument extraordinaire. La stupor mundi, la stupeur du monde. Effectivement, il est cultivé, il a une éducation digne de son rang, mais il va l'améliorer parce qu'il est curieux. Il aime la nature, il aime la poésie, il maîtrise le grec et le latin, il s'intéresse aux sciences naturelles, mais il va approfondir aussi sa connaissance grâce à une initiation à la langue hébraïque et à la langue arabe. Il va véritablement marquer l'histoire de l'Italie du Sud et de la Sicile. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le château de Castel del Monte, dans les Pouilles, pour comprendre cet esprit original, cet esprit toujours à la recherche d'une perfection artistique, culturelle. Il va créer, dans son royaume d'ailleurs, une école poétique sicilienne, s'inspirant de la Méditerranée, de la culture arabe, de la culture byzantine. Il va créer également l'université de Naples. Il va organiser une école de médecine à Salerne. Et puis il va initier également, à Palerme même, la Magna Curia, qui est une cour de poètes qu'il aime rassembler régulièrement. C'est donc un homme profondément impressionnant qui est magnifié par Dante dans la Divine Comédie. C'est pour cela que j'ai choisi de citer le poète italien quand il évoque la figure de Frédéric II. Mais il est difficile également de ne pas cacher les difficultés qu'a eues l'empereur et roi Frédéric. Parce que cet homme, très ouvert sur la curiosité et le monde de son temps, féru de connaissances et d'art, s'est opposé frontalement à la papauté. Et il s'est opposé à la volonté théocratique de la papauté qui souhaitait finalement contrôler, régenter les monarques du XIIIe siècle. Et Frédéric II va être présenté pendant longtemps comme un véritable antéchrist biblique. En effet, lui-même se considérait comme un élu de Dieu et s'appuyant sur certains indices du droit romain, il a voulu affirmer son pouvoir face à une église qui cherchait au contraire à le contrôler. D'où les heurts qu'il a eus avec l'église romaine, ce qui lui a valu à plusieurs reprises d'être excommunié. Quand il meurt le 13 décembre 1250, après des rapports extrêmement compliqués avec la papauté, eh bien Frédéric II va s'éteindre dans son château de Fiorentino. Mais il va aimer tellement cette terre sicilienne qu'il a parcourue, qu'il va être inhumé dans la cathédrale de Palerme. Et aujourd'hui encore, le visiteur de la cathédrale de Palerme peut voir le tombeau de celui qui a tellement marqué son époque. Et il n'est pas rare de trouver encore aujourd'hui, en contrebas du tombeau de cette Stupor Mundi, des bouquets de fleurs amenés par quelques visiteurs ou par quelques Siciliens. Après la mort de Frédéric II, ses deux fils vont se disputer le pouvoir. Officiellement, l'héritier légitime, c'est Conrad IV, mais cet héritage lui est disputé par son frère Manfred, fils naturel de Frédéric II. L'opposition entre les deux frères va perdurer plusieurs années, et c'est finalement par une décision pontificale de Clément IV en 1264 que la papauté décide que le véritable monarque sera finalement non pas ni Manfred ni Conrad, mais Charles d'Anjou, prince français. Changement donc de souveraineté à la tête de la Sicile et de l'Italie du Sud. Manfred a essayé de résister à cette décision, mais il est battu et tué à Bénévent. Il sera d'ailleurs considéré par certains comme un martyr de la papauté par rapport à cette principauté qui devient en grande partie française. En effet, Charles d'Anjou va gouverner la Sicile. Il va la gouverner pendant une vingtaine d'années. Mais la présence de ces Angevins va finalement rencontrer des résistances populaires. En effet, les droits féodaux vont s'apesantir sur l'île et le souvenir du relatif libéralisme qu'avait montré Frédéric II est regretté. D'où le fait qu'en 1282, à Palerme, éclate un soulèvement contre les Français. Il s'agit des Vêpres siciliennes. En effet, les Français vont déclencher une colère populaire et vont être chassés de la Sicile, avec l'aide d'ailleurs de Pierre III d'Aragon, qui est appelé à la rescousse par les révoltés. Celui-ci est d'ailleurs marié à une souabe, Constance, et il revendique par ce mariage ses droits à la couronne de Sicile. Une puissante flotte catalane va venir border les côtes siciliennes, et finalement il va y avoir un affrontement qui va tourner en faveur des Aragonais. Charles d'Anjou quitte la Sicile et le 29 septembre 1283 et ne va conserver que le royaume de Naples. Il y a donc un changement de maître à la tête de l'île. Désormais, c'est une dynastie venue de la péninsule ibérique, les Aragonais, qui vont dominer la Sicile. En effet, cette dynastie va devenir officiellement en 1302 la dynastie reconnue sur le territoire sicilien et également sur le territoire du sud de l'Italie. Plusieurs souverains vont se succéder, Frédéric III d'Aragon, fils de Pierre, qui devient souverain, et puis également son fils qui va lui succéder et qui va maintenir une présence aragonaise extrêmement importante. Les marchands catalans vont faire de la Sicile un pied-à-terre qui leur permet finalement de travailler aussi bien avec la Méditerranée occidentale qu'avec la Méditerranée orientale. Il y a véritablement là un établissement nouveau qui se fait. Et cette Sicile va rester finalement longtemps sous domination espagnole. Certes, à partir de 1425, il va y avoir une séparation entre les Angevins qui réussissent à se maintenir à Naples et la Sicile. Mais cette succession d'événements qui va fracturer dans un premier temps le royaume qui avait été unifié par les Normands, eh bien, va permettre à l'Espagne véritablement d'affirmer dans la péninsule italienne sa puissance. Car en effet, la couronne d'Aragon, qui est une des couronnes de l'Espagne, va permettre aux souverains, et en particulier à partir de Charles Quint, de jouer un rôle prépondérant dans la péninsule. Un vice-roi d'Espagne sera d'ailleurs représentant du souverain à Palerme. Il va occuper le château royal que vous pouvez encore visiter aujourd'hui et il pourra entendre la messe dans cette chapelle extraordinaire que les rois normands avaient construite, la chapelle palatine, où se trouve parmi les plus belles mosaïques du XIIe siècle. Cette période espagnole dépassera largement la période médiévale et ce n'est que au XVIIIe siècle que finalement il y aura une fin de la prépondérance espagnole en Italie. Mais c'est une autre histoire.